Donc on va ouvrir le livre des Proverbes ensemble et on va parler de la sagesse. Donc dans les Proverbes, la sagesse. Parce que bien voilà, tout homme recherche quelque part la sagesse, mais autant faut-il savoir par où commencer à chercher déjà. Et nous avons le chemin dans la parole de Dieu. Alors je vais vous poser des questions de temps en temps, comme ça je suis sûr que tout le monde suit et tout le monde est bien réveillé. C'est une astuce de prédicateur. Alors, on va commencer par une question. Je sais que vous êtes réveillés déjà, mais c'est pas grave. Comment est-ce que vous définiriez la sagesse avec vos propres mots, d'après vous? Comment vous définiriez la sagesse? Réfléchir avant d'agir. Ouais, mais il y en a qui réfléchissent avant d'agir, mais pourtant, ils agissent pas de manière sage. Capacité à discerner le vrai et le faux. Oui, effectivement. Pour orienter sa conduite. Ah, c'est précis, là.
C'est aussi, spontanément, ce qui nous vient à l'esprit, c'est d'avoir un comportement qui ne provoque pas de division. Ça va toujours agir sans, même quand il y a des choses difficiles, il sent que ça va tout le temps de la bagaille.
Oui, c'est ce qu'on dit, agir de manière sage, effectivement, mais avec le définir, c'est pas facile. Alors, avoir du sens dans. Alors oui, exactement. Le contraire de l'insensé, c'est la sagesse, donc la folie. Donc c'est avoir du sens, quelque chose qui a du sens. Oui. Être sensé dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans la manière dont on agit. En Proverbe 9:10, il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc le sage, premièrement, d'après la parole de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Donc c'est pas une crainte terrifiante où on reste couché par terre, hein, mais même si notre Dieu, il ne faut pas l'oublier, est un feu dévorant, il s'est présenté sur cette montagne, hein, on l'a vu, qui fumait, qui tremblait avec des éclairs, donc c'est pas un petit Dieu, c'est le grand Dieu. Mais c'est aussi avoir un profond respect pour lui et pour sa parole. Le sage, la crainte de l'Éternel, c'est aussi prendre conscience finalement de notre petitesse devant Dieu, hein, de notre insignifiance devant le grand Seigneur, le grand Dieu que nous avons. Proverbe 9:1, il est dit que la sagesse a bâti sa maison et qu'elle a taillé ses colonnes. Donc le sage, il construit. C'est quelqu'un qui travaille, qui est actif et qui construit. Ça, c'est vraiment, il fait avancer les choses pour le mieux. Et il n'est pas paresseux, ça c'est clair. Au contraire, puisque là, on le verra, on va regarder après, hein, plus en détail le proverbe 9, donc de la sagesse. Proverbe 8:11, il est écrit que la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et on voit que la sagesse, elle n'est pas matérialiste. Hein. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, elle n'est pas matérialiste. Et le sage n'est pas matérialiste de toute façon. Il sait que la crainte de Dieu, c'est la valeur la plus sûre qu'il peut avoir. Plus que tous les biens qu'il peut posséder, c'est la valeur la plus sûre. Proverbe 16:22, il est écrit que « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » Donc la sagesse donne la vie, elle conduit l'homme sur le chemin de la vie. On voit aussi, hein, que, on va le voir après, mais que la sagesse, bien, c'est Jésus-Christ de toute façon. C'est lui. Proverbe 19:11 dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc la sagesse, elle est patiente, elle n'est pas impulsive et elle pardonne. Elle pardonne. Proverbe 17:16, Proverbe 28:26 d'abord, pardon. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc la sagesse, source de notre salut. Et le salut pour notre âme, et celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, donc c'est aussi le chemin, donc c'est Jésus-Christ bien sûr. Proverbe 17:16, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a pas de sens. Et la sagesse, eh bien, ne s'achète pas avec de l'argent, parce qu'elle n'a pas de prix. Le Seigneur Jésus-Christ, on ne l'achète pas avec de l'argent, parce qu'il n'a pas de prix. Le sang qu'il a versé pour nous, le prix de nos péchés, le salut qu'il nous offre n'a pas de prix. On ne peut pas l'acheter. Alors, la sagesse, ça fait penser au sage sur le roc, hein, qui bâtit sa maison. Donc, c'est l'exemple de celui qui écoute la parole du Seigneur Jésus, mais et qui la met en pratique, pas simplement qu'il l'écoute. Donc, il bâtit sur le roc, sur la parole de Dieu. Alors, s'il y a la sagesse, il y a aussi la folie. Alors, comment vous définiriez la folie? Oui, c'est un peu facile, mais oui. Effectivement, tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Ça marche aussi. La Bible dit dans Psaume 14:1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc la plus grande des folies, hein, et la folie consiste premièrement, en tout cas d'après la parole de Dieu, à renier Dieu, à nier son existence. C'est même pas qu'on combat Dieu, c'est il n'existe pas. Hein, c'est voilà, terminé, point, pas de Dieu, fini. Proverbe 9:13 dit que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Donc la folie, eh bien, elle est bruyante, donc elle est visible. Elle cherche à se montrer, à faire paraître. Ça fait des éclats. Mais à l'intérieur, eh bien, elle est vide et ignorante. Proverbe 14:8 dit que la folie des insensés, c'est la tromperie. Donc l'insensé, il est aussi un trompeur. Un trompeur. Il est un menteur. Et finalement, il se trompe lui-même. Il ne s'en rend pas compte, mais il se trompe lui-même. À vouloir se dire, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, on se trompe soi-même en premier. Proverbe 14:29 dit, celui qui est prompt à s'emporter, pardon, proclame sa folie. Donc ça, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la sagesse qui est tempérante, hein, qui est calme. Eh bien là, il est écrit que voilà, la folie, l'insensé finalement, est impulsif, impatient, intolérant aussi, sans compassion. Proverbe 17:12 dit, rencontre une ourse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Il y a des proverbes comme ça. Hein. Voilà. Rencontre une ourse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Donc la folie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle mène à la mort. Parce que si vous rencontrez une ourse privée de ses petits, faut pas se faire hein, d'illusions. Elle perd l'âme de celui qui la suit. Proverbe 24:9, il est écrit que la pensée de la folie n'est que péché. N'est que péché. Donc le péché est constamment devant l'insensé. Constamment. Et il pratique le péché sans scrupule ni remords. Proverbe 30:32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Donc l'orgueilleux est insensé. Donc l'orgueil et la folie est complice, sont complices toutes les deux. Et c'est ça qui l'entraînera à pécher, donc à la mort. Et on ne peut que penser au fou qui bâtit bien sa maison sur le sable, au lieu de la bâtir sur le roc, sur Jésus-Christ. Hein. Il l'a bâti sur autre chose. Alors on va lire Proverbe 9 entièrement. Il est écrit, Proverbe 9, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici! Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul ta peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Alors la première partie, hein, verset 1 à 11, on va dire, 11 ou 12 premières parties du verset, il est question de la sagesse. Et la sagesse, c'est Jésus-Christ. Pourquoi la sagesse, c'est Jésus-Christ? Parce qu'il est Dieu, donc il est sage. Mais parce que la parole de Dieu nous dit, dans le proverbe juste avant, Proverbe 8, verset 17, il est écrit, donc c'est la sagesse qui parle, et elle dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Ça nous fait penser à quelqu'un quand même, hein, au Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et puis au verset 35, il est écrit aussi du même proverbe, il est écrit, « Car celui qui me trouve, la sagesse, a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. » Celui qui obtient la vie, c'est celui qui trouve Jésus-Christ. Il obtient la faveur de l'Éternel. Donc Christ est la sagesse. Au verset 1, il est écrit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses colonnes. Verset 2 aussi, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Et on voit ici, on l'a déjà dit, hein, mais quelqu'un d'actif, quelqu'un qui construit, qui bâtit. Ici, la sagesse a préparé un festin. Hein. Donc quand il est dit « elle a égorgé ses victimes », ce n'est pas des victimes, ce n'est pas des personnes. Hein. C'est pour manger hein, ici. C'est pas, bien sûr, ce n'est pas des personnes. Et donc il prépare un festin. Et la sagesse, Christ nous a préparé un festin, nous le savons. Il y a le festin des noces de l'agneau qui nous attend hein, quand nous partirons auprès de notre Seigneur, que nous le verrons enfin face à face. Et alors, eh bien, on aura des robes blanches. On sera assis tous ensemble autour d'une même table avec tous nos frères et sœurs des temps passés. Et on sera là ensemble avec le Seigneur qui sera là assis à côté de nous. Et on mangera avec lui. Il nous prépare un festin. Il a dit aussi, le Seigneur, hein, je m'en vais pour vous préparer une place, une demeure et je reviendrai vous chercher. Et le Seigneur eh bien, nous a construit quelque chose et il l'a construit avec son sang. Ici, dans ces deux premiers versets, on a aussi... une idée d'abondance. Hein. Il a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Voilà, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Versets 3 à 6, il est écrit que « Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Et on voit que la sagesse, on voit que Christ... Eh bien, il se tient à la porte, si on peut dire. Il se tient à la brèche aussi, si on veut, hein, suivant les images bibliques. Il est là pour appeler les pécheurs à venir dans sa maison. Il interpelle. Il interpelle. Et bon, il est vrai que quand on regarde la multitude qui est dehors et qui se perd, on se dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Mais on peut être sûr que le Seigneur fait quelque chose. C'est pas possible qu'il ne fasse rien. Le Seigneur fait quelque chose. Il est là. Il est sur le sommet de la montagne, il interpelle les gens qui passent. Alors bien sûr, le Seigneur nous a donné ce ministère à nous qui sommes des chrétiens, hein, ça c'est une certitude. Hein, et c'est à nous de le faire, c'est à nous. Mais faisons confiance au Seigneur que même si on ne voit pas des fruits, eh bien, le Seigneur travaille des cœurs par derrière. Parce qu'il est là, présent. Et il appelle les pécheurs à venir dans sa maison, se rassasier de ses biens. Notre frère Daniel hein, nous a parlé des promesses. Et oui, combien il y a de promesses où on peut se rassasier. Il est dit ici qu'il leur offre la vie. Il leur demande aussi de marcher dans la voie de l'intelligence. Vous savez, ça c'est aussi la sagesse. Hein. Marcher dans la voie de l'intelligence. Ça me fait penser au verset où Paul dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence. Hein. » voilà, on marche plus selon les convoitises passées, selon la chair, selon tout ce qui était avant que nous soyons en Christ. Mais on marche selon l'esprit. On marche selon l'intelligence qui nous est révélée dans les Écritures. Selon la voie que Christ met devant nous. Comme l'a dit notre frère, il y a le Seigneur Jésus qui marche devant nous, puis on marche dans ses pas. On marche dans ses pas. Et c'est vrai que c'est à nous de nous laisser guider, et surtout de ne pas écouter la voix de la folie, hein, la voix de Satan, parce que si la sagesse c'est Christ, eh bien la folie c'est Satan. Au verset 5, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'on trouvait, il dit « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé », ça m'a fait vraiment penser à la Sainte Seine. Je me dis, c'est étrange de trouver ça dans Proverbe 9, en plein milieu là, de l'Ancien Testament. Et c'est, bien sûr, on sait que c'est un symbole hein, du corps de notre Seigneur qui a été brisé. Brisé pour nous à la croix, sacrifié pour nos péchés, du sang qui a été versé pour le pardon, hein, pour la réconciliation, pour l'expiation. Et là, il dit, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité, vous vivrez. Et il est vrai que Jésus a dit qu'il est le pain de vie. Hein. Il a dit lui-même, je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel, le pain vivant. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, eh bien vivra. Ses paroles sont esprit, il l'a dit après, hein. C'était pas à prendre au sens littéral, mais On voit la même chose ici. Celui qui vient manger et boire dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire à Christ, obtient la vie éternelle. Et on a aussi la promesse, eh bien, que dans ce festin que le Seigneur nous a préparé, hein, il est dit qu'il prendra la coupe avec nous et le pain. C'est la première fois qu'on prendra physiquement, eh bien, le repas du Seigneur avec lui. Pour nous, en tout cas, hein, les apôtres, eux, l'ont pris avant la crucifixion, mais nous, on le prendra physiquement avec le Seigneur. On sera tous ensemble réunis. Il sera là. Versets 7 à 10, il est dit « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Et c'est curieux parce qu'on pourrait se dire que c'est l'insensé qui a besoin d'être instruit. Et pourtant, il est dit là que l'instruction, elle est pour le sage. Elle est pour le sage. Pourquoi ? Parce que le sage, il sait la recevoir, alors que l'insensé ne sait pas la recevoir. Pour lui, c'est folie. Il est dit que la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Folie pour ceux qui périssent. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut rien dire aux méchants. Bien sûr. Bien sûr que non. Il faut aller lui annoncer l'évangile. C'est une certitude. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, ne sera reçu que de celui qui a la crainte du Seigneur. Et c'est valable pour ceux qui sont fous parce qu'ils ne sont pas convertis, mais c'est valable aussi pour certains chrétiens qui bien, n'ont pas la crainte du Seigneur, qui vivent leur vie chrétienne avec désinvolture, comme Paul dit, hein, qui font de la liberté que nous avons en Christ un voile pour cacher des méchancetés. Eh bien, celui-là, il ne sera pas prompt à se laisser reprendre et à être instruit. C'est une évidence. Par contre, celui qui a la crainte du Seigneur, eh bien, il est prompt à recevoir l'instruction, à changer de voie, à se remettre en question. Celui qui méprise Dieu méprisera l'enseignement de Christ, car il ne cherche pas la sagesse. Et bien sûr, on doit lui annoncer l'évangile, hein. Ça, c'est une certitude. Ça me fait penser, quand on fait le stand à Paris, là, des fois, on a des personnages assez hauts en couleur qui passent nous voir et très explosifs parfois. Et c'est vrai, il y en a certains, ben, on peut même pas instruire la personne. Elle ne veut pas. Et quand elle ne veut pas, c'est même pas la peine. On a une dame qui est venue se plaindre deux fois, hein, deux fois en trois jours, voilà, que... Elle n'était pas d'accord qu'on soit là, que c'était inconcevable, c'était scandaleux, c'était vraiment, c'était pas possible qu'on soit là. C'était vraiment pas normal dans un pays laïque qu'on ait le droit de poser une table et de donner des Bibles. Mais à chaque fois, la première fois, elle est passée, elle s'est arrêtée, elle a dit je voulais que vous sachiez que je suis contre ce que vous faites, que je ne suis pas d'accord, que c'est intolérable, que c'est scandaleux. On lui a dit mais écoutez. Elle est partie. Deuxième fois, elle est revenue. Pareil, grand scandale dans la rue. Et Romuald a essayé d'aller la voir, de parler avec elle. Impossible. Et elle ne voulait pas entendre. Surtout, je ne veux pas parler avec vous. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ce n'est pas possible. Celui qui méprise Dieu méprisera l'instruction, méprisera l'enseignement. Il n'y a pas de dialogue. C'est terminé. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Point. Sauf qu'elle a dit une phrase en partant. Elle a dit « Si Dieu existe, c'est son problème. » Je me suis dit « Tiens, c'est dommage qu'elle ne veuille pas discuter, parce que là, il y a matière à rebondir. » Au verset 11, la sagesse dit « C'est par moi, et on voit vraiment le Seigneur Jésus-Christ derrière, hein, « C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. » Promesse de notre Seigneur. Hein. C'est par lui que nous avons la vie éternelle, parce que nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Et au verset 12, donc il est dit, si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul ta peine. Et bien sûr, le sage, eh bien, il en retire du bien pour son âme, premièrement. C'est vrai qu'un sage fait du bien autour de lui, c'est vrai. Mais la première récompense qu'il a, c'est pour lui-même, pour son âme. Parce qu'en étant sage, il se fait du bien à lui-même. En agissant de manière sage, il va en retirer des bénédictions, automatiquement. Par contre, le moqueur, lui, il détruit son âme. Et ici, on a un peu l'impression, bon, j'allais dire que c'est un proverbe, mais c'est dans les proverbes, donc oui, effectivement, c'est un proverbe, mais ça sonne un peu comme une sentence un peu populaire, on dirait, voilà, si tu es sage, je suis sage pour toi, si tu es moqueur, tu emporteras seul ta peine. Ça fait un peu penser à, dans le Nouveau Testament, on a que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, ou alors à bon entendeur, salut, hein, c'est tu es prévenu, si tu es sage, tu es sage pour toi, si tu es moqueur, tu emporteras seul ta peine, mais tu es responsable pour tes choix. Alors ça, c'est la voix que nous entendons tous. Hein. Nous l'avons entendue en tant qu'inconvertis et nous nous sommes convertis. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les jours de notre vie, nous avons la voix de la sagesse hein, qui continue à nous parler. Si on veut bien l'entendre, en tout cas. Et on peut l'entendre. Mais on a une autre voix à côté de la voix de la sagesse. Malheureusement, c'est la voix de la folie. Et si la sagesse, c'est Christ, la folie, on y voit clairement Satan derrière. Hein. Le tentateur. L'ennemi, avec tous les noms qu'il a, celui qui veut nous détourner du Seigneur Jésus. Au verset 13, il est écrit que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Et on a ici l'idée de quelque chose d'inutile, même d'une nuisance, hein, bruyante, stupide, ne sachant rien. Et, voilà, c'est un nuisible, quoi. C'est quelque chose qui va peser. Il y a une idée de vide aussi, hein, ne sachant rien, c'est creux. Ça fait du bruit pour attirer nos oreilles et nos yeux, et c'est ce que fait le péché, hein. C'est ce que fait Satan pour nous tenter. Hein, il attise nos oreilles, nos yeux, nos sens, mais derrière c'est creux, c'est vide. Bien sûr, dans le contexte aussi, il est question d'une prostituée, hein, dans la femme bruyante. Et une prostituée, c'est finalement une femme qui cherche à dérober ce qui appartient à d'autres femmes, en l'occurrence un homme. Hein. Et c'est ce que Satan essaye de faire, il essaye de dérober ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire notre vie chrétienne. Mais nos âmes appartiennent au Seigneur et nous devons être vigilants. Ce n'est pas parce que ça fait du bruit, parce que c'est scintillant aux yeux, ça pétille. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en approcher. Au verset 14, j'aime beaucoup le parallèle qu'on peut trouver là. Il dit « Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville ». Et on voit la sagesse qui, elle, a bâti sa maison, elle taille ses colonnes, elle prépare un festin pour ceux qu'elle va accueillir. Et la sagesse, la folie, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assied à l'entrée de sa maison et elle fait du bruit. Voilà, hein, paresseuse, elle ne fait rien. Et on voit vraiment un contraste avec Christ qui s'est affairé pour nous construire quelque chose et la sagesse qui n'a fait que détruire ce qui est. Mais finalement, si vous laissez quelque chose au chaos, hein, sans rien faire, sans... Voilà, ça devient un chaos justement. Si vous laissez les choses en par elles-mêmes, c'est justement le contraire de la théorie de l'évolution. Les choses laissées à elles-mêmes se dégradent, ne s'entretiennent pas, ne changent pas vers le mieux. Et la folie, c'est ça. Le diable, lui, eh bien, il ne construit rien du tout. C'est un mensonge hein, qu'il veut nous faire croire, mais il ne construit rien. Il ne fait que dérober, que voler ce qui appartient aux autres pour le détourner, pour le corrompre, pour le détruire. Au verset 15, il est dit que elle est assise, cette folie, Satan est assis hein, à l'entrée de sa maison pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Alors remarquez que Satan a une maison, je ne sais pas à qui il l'a piqué, mais il ne l'a pas construite. Hein, donc voilà, encore un voleur. Il est là à l'entrée d'une maison pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà Satan qui copie Christ. Hein, il s'assoit pour crier aussi. Mais c'est pas les mêmes auditeurs. Christ, il appelle, il dit voilà, il est sur les sommets de la ville, que celui qui est stupide entre ici, etc. Là, il est dit pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. C'est intéressant ça, il est dit qu'ils vont droit leur chemin. Pourquoi qu'ils vont droit leur chemin? Ceux qui vont droit leur chemin, c'est ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Les autres, ils sont pas dans les voies droites, hein, ça c'est clair. Ils sont dans des voies détournées. Mais ceux qui sont dans les voies détournées, vous savez où ils sont? On le voit à la fin du passage, ils sont déjà dans la maison de Satan. Ils sont déjà ses convives. Ils sont déjà chez lui. Par contre, il crie à ceux qui vont droit leur chemin. Et ça, c'est nous qui voulons marcher avec le Seigneur. Donc la voix du diable est là pour nous faire quitter cette voie droite et nous faire rentrer chez lui. Ça, c'est une certitude. Et c'est quelque chose où il faut être vraiment vigilant. Au verset 16 à 17, il est dit... Et là encore, on voit le parallèle, mais corrompu avec ce que disait la sagesse, ce que disait Christ. Il est dit que celui qui est stupide entre ici, ah, il reprend le même langage. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, même langage. Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est agréable. C'est quand même différent. D'un côté, on a. Alors attendez, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Et de l'autre côté, on a les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Justement, c'est un peu trop mystérieux pour que ce soit honnête. Et on voit la méthode favorite de Satan, hein, de mêler le vrai avec le faux. Il copie, il falsifie le message de Dieu, il le change. Et moi, ce qui me touche ici, c'est justement la simplicité du message de Christ, de la sagesse. C'est simple, c'est la simplicité. Il dit, voilà, et c'est clair. Voilà, venez manger de mon pain et du vin que j'ai mêlé. Et l'autre, c'est les eaux dérobées, le mystère, les pains du mystère. C'est très, très complexe, finalement. On ne comprend pas tout. C'est un peu mystérieux, justement. Moi, ça me touche de voir la simplicité de Dieu, la simplicité qui implique la vérité. On sent dans le message du diable, eh bien, de la flatterie presque, de la séduction. C'est voilà, quelque chose de double. Et il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous le dit, que Satan sait se déguiser en ange de lumière. On le sait, mais il est bon de le répéter pour être toujours vigilant, sans cesse. Hein, veiller et prier, dit la parole de Dieu, en tout temps. Le péché au premier abord, il n'est pas forcément moche. Hein, ça peut être très attirant, très attirant. Mais seulement celui qui a la sagesse de Dieu en lui et qui marche selon cette sagesse, celui qui écoute le Saint-Esprit, eh bien, il saura discerner, justement, ces choses-là. Et ne pas se laisser avoir dans les ruses du diable. Au verset 18, il est dit que il ne sait pas, donc celui qui est stupide et qui entre, hein, ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que il crie à ceux qui vont droit à leur chemin parce que les autres, ils sont déjà chez lui. Ils sont déjà invités. Ils sont déjà là. Ils sont morts, dit la parole de Dieu, morts spirituellement et morts éternels tant que Dieu ne les a pas sauvés, tant qu'ils n'ont pas cru. Et ces invités sont dans les vallées du séjour des morts. Hein, donc ils ne sont pas encore dans le séjour des morts. C'est un peu comme s'il y avait une antichambre là, qui est finalement cette vie, hein, c'est un sursis. Tant qu'ils n'ont pas accepté Christ, eh bien, le Seigneur patiente, hein, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais ils sont là dans la vallée du séjour des morts. Ils sont presque de l'autre côté déjà. Et celui qui ne prend pas garde et qui écoute la voix de la folie, la voix du diable, eh bien, il se rend par compte que la maison dans laquelle il rentre, eh bien, c'est une maison qui a une odeur de mort. Ce n'est pas une odeur de vie, c'est une odeur de mort. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé de nous trouver dans des situations, peut-être pas choisies et parfois eh bien, malheureusement choisies, où on est dans un contexte où on ne devrait pas être. Et on le sent, on n'est pas bien. Il y a une atmosphère qui n'est pas bonne, c'est malsain, ce n'est pas notre place. Et on est là, on est dans cette maison. Hein, ses invités sont dans les vallées, ces jours des morts, il y a une odeur de mort, quoi. C'est pas ma place. Seigneur, je sais pas ce que je fais là, mais c'est pas ma place. C'est pas ma place. Et c'est terrible parce que eux qui n'ont pas accepté Christ ne sentent pas la différence. Ne sentent pas la différence. C'est pour ça qu'il est dit, hein, qu'on doit être une odeur, nous aussi, de vie, ou parfois même de mort, hein, pour ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Mais à nous de contrebalancer et d'être un parfum de bonne odeur, un parfum de Jésus-Christ, là où Dieu nous place. Et pour conclure, donc en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on est soumis à la tentation. Il y a cette voix, hein, du diable, il y a la voix de Christ sans cesse qui nous parle, qui nous console, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne des promesses. Et de l'autre côté, on a cette voix du tentateur. Et faut pas se leurrer, il est jamais bien loin. Si c'est pas lui, c'est un de ses démons, mais qui est là pour nous faire chuter, pour nous tenter. Pour nous faire rentrer dans cette maison qui eh bien, est la maison où nous n'avons rien à faire. Mais n'oublions jamais que on a le choix, on a la possibilité d'écouter la voix de la sagesse. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, il faut se laisser guider. Il faut être. Alors, c'est sûr qu'il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut se laisser éclairer par la parole de Dieu. Et alors, on aura le discernement. Et puis, Jacques nous dit que si on manque de sagesse, on demande à Dieu. Qui donne à tous avec cœur, hein. Il le donne simplement, il faut le croire, parce que si on le demande sans la foi, eh bien notre prière est vaine. Mais si on a besoin de sagesse, demandons au Seigneur, et le Seigneur va nous donner sa sagesse, parce qu'il l'a promis. On a besoin de la sienne, hein, de sa sagesse, pas de la nôtre, pas d'une sagesse humaine, Et alors, faisons attention, ne succombons pas au piège, au diable, pardon, et à ses pièges. On partage pas avec lui, que nous ne partagions pas avec lui un festin de malice, de méchanceté, de médisance, de calomnie, de débauche avec ceux qui sont les invités du diable. Mais puisque nous sommes au Seigneur, eh bien, partageons avec simplicité de cœur la joie du Seigneur, la parole de Dieu, la prière, l'amour, la Sainte Cène aussi, hein, qu'on partage entre nous la vérité, la justice, la fidélité. Et la parole de Dieu nous dit la paix, hein, faut qu'on recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur pur. Et contrairement à ce malaise qu'on peut sentir dans une maison où on n'a rien à faire là, combien on peut sentir une paix, une joie, un bien-être quand on est réuni avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est extraordinaire, ça dépasse tout ce qu'on peut dire. Et ça, c'est des moments, c'est des avant-goûts du ciel, hein. Et bien, prions que ce soit le cas de notre Église et que ça se fasse ressentir entre nous et que quand un visiteur vienne, j'aime beaucoup cette phrase et ce verset, je le répète souvent, mais que quand un visiteur rentre ici, il puisse dire comme Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. » Et je rends témoignage que la première fois que je suis rentré dans une église, eh bien, j'ai pu dire ça parce que j'ai vu l'amour manifesté dans cette église à Perpignan quand nous sommes rentrés. Et je dois dire que c'est touchant, ça touche les cœurs. On ne peut pas rester insensible. On va s'incliner dans la prière. Oui, notre Père, notre Dieu, notre